Chapitre 14. La dame, eh ben, elle a les mêmes joues que Cookie. La petite Héloïse, 4 ans, scrute attentivement la petite Arlette, 92 ans, qui, par bonheur, a oublié ses prothèses auditives. Qui est Cookie ? Je lui demande. Eh ben, c'est mon chien. Il a des babines qui pendent et qui bavent, comme la mamie. Héloïse n'a pas encore découvert la diplomatie, mais elle possède déjà un sens certain de l'observation. Aujourd'hui, les Tamaris tentent une nouvelle expérience. Des élèves de l'école maternelle voisine sont venus rendre visite aux résidents. L'idée émane du directeur de l'école, qui affirme que cet échange peut être bénéfique aux enfants autant qu'aux personnes âgées. Lorsque Anne-Marie m'a demandé mon avis, j'ai immédiatement validé. Les visiteurs des résidents viennent rarement avec des enfants. Par peur de gêner les autres avec un trop-plein de vie, par peur de traumatiser les petits, par peur de se prendre en pleine face l'image du cycle de la vie. Résultat, les personnes âgées se retrouvent entre elles la plupart du temps. La maison de retraite, c'est comme un ghetto de vieux. Y introduire quelques heures d'innocence, de jeunesse et de vie ne peut être que positif. La salle de vie commune grouille de petites frimousses ravies. Pour les enfants, toute sortie est source de joie. Bibliothèque, parc animalier ou maison de retraite, c'est le même enthousiasme de la découverte. Il se tarit au fil des années, jusqu'à laisser place à une certaine lassitude. C'est simple. Si on propose à un enfant de jouer avec des cailloux et des bouts de bois, il est à la limite de l'hystérie. Si on propose à un adulte d'aller passer une semaine dans un hôtel aux Seychelles, il demande si les boissons sont incluses. Mais ce matin, sous mes yeux, un phénomène surprenant se produit. Il semble que la bonne humeur des petits contamine les grands. Louise apprend le tricot à deux enfants impressionnés par sa dextérité. Gustave tente des tours de magie face à trois paires d'yeux écarquillés. Plusieurs bambins font la queue pour un tour de fauteuil roulant avec Mohamed. Marilyn prête son écharpe Miss Mamie 2004 à des petites filles. Et Isabelle court dans tous les sens pour ne manquer aucune photo. Seul Léon n'est pas de la partie. Il a fait savoir qu'il avait supporté assez de chiards tout au long de sa vie pour qu'on vienne l'ennuyer avec ça.
Si on me cherche, je suis dans mon studio.
Je passe d'un résident à l'autre pour glaner les impressions, même si leur mine ne laisse aucun doute quant à la réussite de l'expérience.
Quel bonheur ! Me souffle Louise. Je n'avais pas éprouvé autant de joie depuis mon arrivée ici. J'ai l'impression de faire un saut dans le passé, quand j'apprenais le tricot à mes filles, quoiqu'elles fussent un peu plus polissonnes.
Ses yeux brillent. Machinalement, je pose ma main sur son bras et lui souris. Pour moi aussi, ce matin est particulier. Je suis là depuis près d'une semaine et je n'ai pas ressenti l'envie de déguerpir depuis plusieurs heures. Tout juste ai-je levé les yeux au ciel quand Gustave m'a demandé
« Ça va, Lise ?»
Il faudra que je cherche sur Internet ce soir. Il ne fait aucun doute que je couvre quelque chose. Marine me rejoint, un sourire aux lèvres et un foulard autour de la tête. J'ai fait un stage dans une crèche il y a quelques années. Et tu sais quoi ? Les vieux et les bébés, c'est exactement la même chose. Pas de dents, pas de cheveux, faut leur changer la couche, ils mangent de la purée et on comprend pas tout ce qu'ils disent. Mais quand même, on les aime bien. Comme pour illustrer ses propos, le petit Lucas fait le tour de Gustave avec l'envie de comprendre comment il s'y prend pour sortir de sa manche tous ses foulards colorés. Arrivé derrière lui, il s'arrête subitement, fronce les sourcils et, du bout de l'index, lui palpe les fesses comme on choisit un fruit.
« Mais t'as une couche ? Pourquoi tu mets une couche ?»
Gustave rougit, puis regarde le petit garçon avec la mine grave.
« C'est parce que je suis un bébé dans un corps de grand. »
« Mais c'est pas possible, ça. Ma maman, elle me dit que je suis plus un bébé, alors toi encore moins. »
« Ta maman se trompe, mon petit. C'est sans doute parce qu'elle ne connaît pas le secret. »
Le petit garçon fronce les sourcils, intrigué.
« Quel secret ?»«
Le secret !»
murmure Gustave d'un air mystérieux.
« Le plus grand secret de l'univers, le secret de la vie. Je peux te le confier. » Mais tu dois me promettre de le garder pour toi. Tout le monde n'est pas prêt à l'entendre. Tu es prêt, toi ?
Je suis presque aussi excitée que Lucas à l'idée de connaître le secret. Quand je dis que je couvre quelque chose...
Oh oui, je suis prêt !
S'écrie le petit garçon. Gustave s'assoit et le prend sur ses genoux, manquant de le faire tomber à deux reprises.
Alors vois-tu, mon petit ? Tout le monde croit que l'homme est différent selon la période de sa vie. Tout le monde croit qu'il y a les enfants, les adultes et les personnes âgées. Mais c'est faux.
Mais non, c'est vrai. Moi, je suis un enfant et toi, t'es un âgé.
C'est ce que les gens pensent. Mais la vérité, c'est qu'on reste des bébés tout au long de notre vie. On enfile différents costumes pour le cacher et faire comme les autres. Celui de l'adolescent, celui de l'adulte, celui du parent. Et puis un jour, quand on est trop vieux pour faire semblant, on retire le déguisement et on affiche ce que l'on a toujours été. Un bébé.
Pfff, c'est n'importe quoi ton secret, dit Lucas en quittant ses cuisses.
Tu verras, mon petit. Tout au long de ta vie, tapis au fond de toi, tu garderas les mêmes besoins. Être aimé, rassuré, ne pas être seul, avoir toujours à manger et à boire, te distraire, qu'on s'occupe de toi et avoir à tes côtés une personne qui t'aime plus qu'elle-même. Comme un bébé.
Je préfère quand t'es rigolo, lance le petit garçon en s'éloignant, laissant Gustave seul avec son jeu de cartes, son chapeau à double fond et ses foulards colorés. Il a l'air triste tout à coup. Le costume du blagueur s'est effrité au contact de l'enfance. Ce vieil homme a l'air bien plus profond qu'il ne s'échine à le laisser paraître. Et si je profitais de cette brèche pour le connaître mieux ? C'est joli ce que vous avez dit à ce petit garçon, dis-je en m'approchant de lui. Au son de ma voix, Gustave remet immédiatement sa carapace et son large sourire.
Pourtant, ça l'a fait fuir. Ne dit-on pas que la vérité sort de la bouche des enfants ? Les gens me préfèrent quand je suis drôle.
Lorsque vous essayez de l'être,
nuance, je précise avec un clin d'œil. Il faut bien que je m'adapte au niveau de l'auditoire, répond-il en riant. À ce propos, vous connaissez la blague du nombril ?
Non.
Bril !
Là, j'ai envie de déguerpir. Me voilà rassurée, je suis en parfaite santé. Chapitre 15. Ce soir, je suis de corvée PBLV. Traduction, c'est moi qui accompagne les résidents pendant leur visionnage quotidien de la série Plus belle la vie dans le salon commun. Traduction bis, je vais passer une demi-heure à subir des dialogues intellectuels avec des gens qui les entendent à peine. Traduction terre, si on me donnait le choix, je crois que, à la place, j'opterais pour une épilation du maillot intégrale à la pince, ou au chalumeau. Le public est déjà en place. Chacun s'est installé face au grand écran, dans l'un des fauteuils posés là, héritage dépareillé de pensionnaires disparus. Les résidents en chaise roulante forment une courte ligne, tandis que les déambulateurs sont garés contre le mur. Je m'installe dans un vieux sofa Bordeaux alors que le générique commence. Trois regards me mitraillent. Il semble que je fasse trop de bruit. Je vais cacher leur sonotone, on va voir s'ils vont me regarder en biais. Je n'ai jamais vu Plus belle la vie, mais ça ne m'empêche pas d'en penser du mal. Il paraît que c'est mal joué, que c'est mièvre et que le scénario semble être écrit par un enfant de 5 ans sous LSD. Si j'avais su qu'être polyvalente signifiait subir des séances de torture, j'aurais réfléchi davantage avant d'accepter le poste. Normalement, c'est à Greg d'accompagner ce moment hautement culturel, mais monsieur s'est offert une semaine de vacances. 20h21, allez, 30 petites minutes, je peux le faire. Je peux le faire. 20h22, c'est impressionnant, ils sont tous captivés par l'écran. Je pourrais me mettre à danser nu sur un déambulateur que personne ne le remarquerait. 20h23.
Il a dit quoi ?
Demande Arlette.
Il a dit chut !
Toujours aussi sympathique, ce Léon. 20h25. Bizarre, je pensais qu'à Marseille, les gens avaient un accent. 20h27. À l'écran, une certaine Blanche est retenue dans une cave, mains et pieds liés. Il semble que cela ne lui plaise pas des masses, à en juger par ses hurlements de bête sauvage. Pourvu qu'elle n'ait jamais de scène d'accouchement à tourner. 20h31, les yeux rivés sur l'écran, Elisabeth triture un mouchoir, Lucienne essuie ses yeux et Mohamed crispe ses doigts sur la manette de son fauteuil roulant. 20h33, à la télé, une dénommée Mélanie pleure dans les bras d'un grand blond. Si je comprends bien, elle a eu un coup de foudre pour un homme rencontré lors d'un voyage et elle souffre de savoir leur amour impossible. Le grand blond lui demande pourquoi. «
Parce que Luc est prêtre », répond-elle.
« Bien, bien, bien. » Assis à côté de moi, Gustave rompt le silence quasi religieux.
« Vous connaissez le nom de famille de Mélanie ?
me demande-t-il.
Non.
Zette au frais, répond-il dans un rire gras. Mélanie Zette au frais.
Note pour plus tard, ne plus répondre aux questions de Gustave.
20h35.
Il a dit quoi ?
Demande Arlette.
Il a dit tais-toi !
Si les parents de Léon avaient su, ils l'auraient appelé aimable.
20h36. Dans la série, Blanche a cessé ses vagissements. Ses cordes vocales ont dû la menacer de mort. Elle vient de s'apercevoir qu'une paire de ciseaux était posée à 2 mètres d'elle. Deux solutions. Soit son ravisseur l'aime beaucoup, soit il y a eu une erreur de fabrication et il est né avec un cerveau de poulpe. Pendant qu'elle se contorsionne pour atteindre les ciseaux, j'observe les réactions des résidents. Je ne veux pas être pessimiste, mais on n'est pas loin de l'infarctus.
20h38, à la télé, Mélanie décide d'avouer ses sentiments à son mystérieux prêtre. Les sourcils en accordéon, elle compose son numéro. À 2 fauteuils de moi, Miss Mamie s'agrippe à son écharpe comme une pucelle à sa culotte.
20h40. « Julia, vous êtes stressée ?»
me demande Louise en fixant mes doigts. Ma main droite est en train d'arracher les petites peaux autour des ongles de la gauche. « Pas du tout, » je rétorque en haussant les épaules. « C'est mon psoriasis. »
20h41. « Elle a dit quoi ?»
demande Arlette.
« Elle a dit que tous ceux qui regardent Plus belle la vie vont mourir, à commencer par ceux qui ont les cheveux mauves !»
grogne Léon. 20h43. À l'écran, un certain Roland embrasse une petite brune. Ça bruisse dans l'assistance.
« Oh non, il trompe Myrta !»«
Pauvre Myrta !»«
Je ne lui pardonnerai jamais ce qu'il a fait à Myrta !»«
C'est pas vrai, pas Roland, ce sont vraiment tous les mêmes !»
20h45, Blanche n'est plus très loin des ciseaux. Elle tend le bras aussi loin que possible, gémit, s'étire et finit par les effleurer du bout des doigts. Juste au moment où la porte s'ouvre brusquement. Zoom sur le visage affolé de Blanche, musique et générique. Sérieusement, ils arrêtent l'épisode au moment le plus captivant? Ce ne sont pas des enfants de 5 ans qui écrivent les intrigues, ce sont des sadiques. Comment peuvent-ils laisser le public dans l'ignorance de ce qu'il va advenir de cette pauvre Blanche? Sans savoir comment le prêtre va réagir à la déclaration de Mélanie. Et que vont devenir Roland et Myrta? Pas que ça m'intéresse, évidemment, mais je pense au bien-être des résidents. C'est inhumain de leur faire subir ce suspense. Les fauteuils se vident, je suis la dernière à quitter le salon commun. Dans le couloir, je croise Anne-Marie qui rentre chez elle.
« Bonne soirée !» me lance-t-elle.
« Merci, vous aussi » réponds-je. Je regarde autour de moi pour m'assurer que personne ne puisse m'entendre et lui souffle. « Si jamais vous avez besoin de quelqu'un pour une session PBLV, je veux bien me sacrifier. »